De la gloire. Chapitre 16. Il y a le nom et la chose. Le nom, c'est une voix qui remarque et signifie la chose. Le nom, ce n'est pas une partie de la chose ni de la substance. C'est une pièce étrangère jointe à la chose et hors d'elle. Dieu, qui est en soi toute plénitude et le comble de toute perfection, il ne peut s'augmenter et accroître dedans. Mais son nom se peut augmenter et accroître par la bénédiction et louange que nous donnons à ses ouvrages extérieurs.
Laquelle louange, puisque nous ne la pouvons incorporer en lui,
d'autant qu'il n'y peut avoir accession de bien, nous l'attribuons à son nom qui est la pièce hors de lui la plus voisine. Voilà comment c'est à Dieu seul, à qui gloire et honneur appartiennent, et n'est rien si éloigné de raison que de nous en mettre en quête pour nous. Car étant indigent et nécessiteux au-dedans, notre essence étant imparfaite et ayant continuellement besoin d'amélioration, c'est là à quoi nous nous devons travailler. Nous sommes tous creux et vides. Ce n'est pas de vent et de voix que nous avons à nous remplir. Il nous faut de la substance plus solide à nous réparer. Un homme affamé serait bien simple de chercher à se pourvoir plutôt d'un beau vêtement que d'un bon repas. Il faut courir au plus pressé. Comme disent nos ordinaires prières, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes sur la terre. » Nous sommes en disette de beauté, santé, sagesse, vertu, et telles parties essentielles. Les ornements externes se chercheront après que nous aurons pourvu aux choses nécessaires. La théologie traite amplement et plus pertinemment ce sujet, mais je n'y suis guère versé. Chrysippe et Diogène ont été les premiers auteurs et les plus fermes au sujet du mépris de la gloire. Et entre toutes les voluptés, ils disaient qu'il n'y en avait point de plus dangereuse ni plus à fuir que celle qui nous vient de l'approbation d'autrui. De vrai, l'expérience nous en fait sentir plusieurs trahisons bien dommageables. Il n'est chose qui empoisonne tant les princes que la flatterie, ni rien par où les méchants gagnent plus aisément crédit autour d'eux, ni maquerellage si propre et si ordinaire à corrompre la chasteté des femmes que de les paître et entretenir de leurs louanges. Le premier enchantement que les sirènes emploient à piper Ulysse est de cette nature. Deça vers nous, deça, ô très louable Ulysse, et le plus grand honneur dont la Grèce fleurisse. Ces philosophes-là disaient que toute la gloire du monde ne méritait pas qu'un homme d'entendement étendît seulement le doigt pour l'acquérir. La gloire, si grande soit-elle, que sera-t-elle si elle n'est que de la gloire? Je dis pour elle seule, car elle tire souvent à sa suite plusieurs commodités pour lesquelles elle se peut rendre désirable. Elle nous acquiert de la bienveillance. Elle nous rend moins exposés aux injures et offenses d'autrui et choses semblables. C'était aussi des principaux dogmes d'Épicure, car ce précepte de sa secte, « Cache ta vie », qui défend aux hommes de s'empêcher des charges et négociations publiques, présuppose aussi nécessairement qu'on méprise la gloire, qui est une approbation que le monde fait des actions que nous mettons en évidence. Celui qui nous ordonne de nous cacher et de n'avoir soin que de nous, et qui ne veut pas que nous soyons connus d'autrui, il veut encore moins que nous en soyons honorés et glorifiés. Aussi conseille-t-il à Idoménée de ne régler aucunement ses actions par l'opinion ou réputation commune, si ce n'est pour éviter les autres incommodités accidentelles que le mépris des hommes lui pourrait apporter. Ces discours-là sont infiniment vrais, à mon avis, et raisonnables. Mais nous sommes, je ne sais comment, doubles en nous-mêmes, qui fait que ce que nous croyons, nous ne le croyons pas, et ne nous pouvons défaire de ce que nous condamnons. Voyons les dernières paroles d'Épicure et qu'il dit en mourant. Elles sont grandes et dignes d'un tel philosophe, mais pourtant ont-elles quelques marques de la recommandation de son nom et de cette humeur qu'il avait décriée par ses préceptes. Voici une lettre qu'il dicta un peu avant son dernier soupir. Épicure à Aéramarque. Salut. Cependant que je passais l'heureux, et celui-là même, le dernier jour de ma vie, j'écrivais ceci, accompagné toutefois de telles douleurs en la vessie et aux intestins, qu'il ne peut rien être ajouté à sa grandeur. Mais elle était compensée par le plaisir qu'apportait à mon âme la souvenance de mes inventions et de mes discours. Or toi, comme requiert l'affection que tu as eue dès ton enfance envers moi et la philosophie, embrasse la protection des enfants de Maître d'Or. » Voilà sa lettre. Et ce qui me fait interpréter que ce plaisir qu'il dit sentir en son âme, de ses inventions, regarde quelque peu la réputation qu'il en espérait acquérir après sa mort, c'est l'ordonnance de son testament par lequel il veut qu'Aminomaque et Timocrate, ses héritiers, fournissent pour la célébration de son jour natal, tous les mois de janvier, les frais qu'Hermarque ordonnerait, et aussi pour la dépense qui se ferait le 20e jour de chaque lune au traitement des philosophes, ses familiers qui s'assembleraient à l'honneur de la mémoire de lui et de Maître d'Or. Carnéade a été chef de l'opinion contraire, et a maintenu que la gloire était pour elle-même désirable, tout ainsi que nous embrassons nos posthumes pour eux-mêmes, n'en ayant aucune connaissance ni jouissance. Cette opinion n'a pas failli d'être plus communément suivie, comme sont volontiers celles qui s'accommodent le plus à nos inclinations. Aristote lui donne le premier rang entre les biens externes, évite, comme deux extrêmes vicieux, l'immodération, et à la rechercher et à la fuir. Je crois que si nous avions les livres que Cicéron avait écrits sur ce sujet, il nous en compterait de belles. Car cet homme-là fut si forcené de cette passion que, s'il eût osé, il fut, se crois-je, volontiers tombé en l'excès ou tombèrent d'autres, que la vertu même n'était désirable que pour l'honneur qui se tenait toujours à sa suite.
La vertu secrète diffère peu de la mollesse qui s'y cache.
Qui est une opinion si fausse que je suis dépit qu'elle ait jamais pu entrer en l'entendement d'homme qui eût cet honneur de porter le nom de philosophe. Si cela était vrai, il ne faudrait être vertueux qu'en public. Et les opérations de l'âme, où est le vrai siège de la vertu, nous n'aurions que faire de les tenir en règle et en ordre, sinon autant qu'elles devraient venir à la connaissance d'autrui. N'y va-t-il donc que de faillir finement et subtilement ? Si tu sais, dit Carnéade, un serpent caché en ce lieu auquel, sans y penser, se va asseoir celui de la mort duquel tu espères profit, tu fais méchamment, si tu ne l'en avertis, et d'autant plus que ton action ne doit être connue que de toi. Si nous ne prenons de nous-mêmes la loi de bien faire, si l'impunité nous est justice, à combien de sortes de méchanceté avons-nous tous les jours à nous abandonner ? Ce que Sextus Peduceus fit, de rendre fidèlement cela que Caius Plotius avait commis à sa seule science de ses richesses, et ce que j'en ai fait souvent de même, je ne le trouve pas tant louable, comme je trouverais exécrable que nous y eussions failli. Et trouve bon et utile à rappeler en nos jours l'exemple de Publius Sextilius Rufus, que Cicéron accuse pour avoir recueilli une hérédité contre sa conscience, non seulement non contre les lois, mais par les lois mêmes. Et Marcus Crassus et Quintus Hortensius, lesquels, à cause de leur autorité et puissance, ayant été pour certaines quotités appelés par un étranger à la succession d'un testament faux, afin que par ce moyen il y établît sa part, se contentèrent de n'être participants de la fausseté et ne refusèrent d'en tirer du fruit, assez couverts s'ils se tenaient à l'abri des accusations et des témoins et des lois. Qu'ils se souviennent qu'ils ont Dieu pour témoin, c'est-à-dire, à mon avis, leur propre conscience. La vertu est chose bien vaine et frivole, si elle tire sa recommandation de la gloire. Pour néant, entreprendrions-nous de lui faire tenir son rang à part, et la déjoindrions de la fortune. Car qu'est-il plus fortuit que la réputation ? La fortune, assurément, est maîtresse en toute chose. Elle rend tout glorieux ou obscur selon son bon plaisir, plus que selon la vérité. De faire que les actions soient connues et vues, c'est le pur ouvrage de la fortune. C'est le sort qui nous applique la gloire, selon sa témérité. Je l'ai vu fort souvent marcher avant le mérite, et souvent outrepasser le mérite d'une longue mesure. Celui qui premier s'avisa de la ressemblance de l'ombre à la gloire, fit mieux qu'il ne voulait. Ce sont choses excellemment vaines. Elle va aussi quelquefois devant son corps, et quelquefois l'excède de beaucoup en longueur. Ceux qui apprennent à la noblesse de ne chercher en la vaillance que l'honneur, comme s'il n'existait pas d'honneur qui ne soit accompagné de notre éclat. Que gagnent-ils par là que de les instruire de ne se hasarder jamais si on ne les voit et de prendre bien garde s'il y a des témoins qui puissent rapporter nouvelles de leur valeur, là où il se présente mille occasions de bien faire, sans qu'on en puisse être remarqué. Combien de belles actions particulières s'ensevelissent dans la foule d'une bataille ? Quiconque s'amuse à contrôler autrui pendant une telle mêlée, il n'y est guère embesogné, et produit contre soi-même le témoignage qu'il rend des déportements de ses compagnons. La vraie et sage grandeur d'âme juge que cet honneur qui suit le plus la nature se trouve dans les actes, non dans la gloire. Toute la gloire que je prétends de ma vie, c'est de l'avoir vécue tranquille. Tranquille non selon Métrodore, ou Arcésilas, ou Aristippe, mais selon moi, puisque la philosophie n'a su trouver aucune voie pour la tranquillité qui fût bonne en commun, que chacun la cherche en son particulier. À qui doivent César et Alexandre cette grandeur infinie de leur renommée qu'à la fortune? Combien d'hommes a-t-elle éteint sur le commencement de leur progrès, desquels nous n'avons aucune connaissance? Qui y apportait même courage que le leur si le malheur de leur sort ne les eût arrêtés tout court sur la naissance même de leurs entreprises? Au travers de tant et si extrêmes dangers, il ne me souvient point avoir lu que César ait été jamais blessé. 1000 sont morts de moindre péril que le moindre de ceux qu'il franchit. Infinies belles actions se doivent perdre sans témoignage avant qu'il en vienne une à profit. On n'est pas toujours sur le haut d'une brèche ou à la tête d'une armée, à la vue de son général, comme sur un échafaud. On est surpris entre la haie et le fossé. Il faut tenter fortune contre un poulailler. Il faut dénicher 4 chétifs arquebusiers d'une grange. Il faut seul s'écarter de la troupe et entreprendre seul, selon la nécessité qui s'offre. Et si on prend garde, on trouvera, à mon avis, qu'il advient par expérience que les moins éclatantes occasions sont les plus dangereuses. Et qu'aux guerres qui se sont passées de notre temps, il s'est perdu plus de gens de bien aux occasions légères et peu importantes et à la contestation de quelques bicoques qu'aux lieux dignes et honorables. Qui tient sa mort pour mal employée, si ce n'est en occasion signalée, au lieu d'illustrer sa mort, il obscurcit volontiers sa vie, laissant échapper cependant plusieurs justes occasions de se hasarder. Et toutes les justes sont illustres assez, sa conscience les trompettant suffisamment à chacun. Notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Qui n'est homme de bien que parce qu'on le saura, et parce qu'on l'en estimera mieux après l'avoir su, qui ne veut bien faire qu'en condition que sa vertu vienne à la connaissance des hommes, celui-là n'est pas personne de qui on puisse tirer beaucoup de service. Je crois que le reste de cet hiver, il fit des exploits dignes d'en rendre compte, mais ils sont demeurés cachés jusqu'à présent, si bien que ce n'est pas ma faute si je ne les raconte pas, parce que Roland était toujours plus prêt à accomplir des actions glorieuses qu'à les raconter ensuite. Et aucun de ses exploits ne fut jamais narré, sinon quand il avait des témoins à côté. Il faut aller à la guerre pour son devoir, et en attendre cette récompense qui ne peut faillir à toutes belles actions, pour occulte qu'elle soit, non pas même aux vertueuses pensées. C'est le contentement qu'une conscience bien réglée reçoit en soi de bien faire. Il faut être vaillant pour soi-même, et pour l'avantage que c'est d'avoir son courage logé en une assiette ferme et assurée contre les assauts de la fortune. La vertu ne connaît pas la honte de l'échec. Elle brille d'honneurs intacts. Elle ne prend ni ne rend les insignes du pouvoir selon le caprice de l'opinion populaire. Ce n'est pas pour la parade que notre âme doit jouer son rôle. C'est chez nous, au-dedans, où nuls yeux ne donnent que les nôtres. Là, elle nous couvre de la crainte de la mort, des douleurs et de la honte même. Elle nous assure là de la perte de nos enfants, de nos amis et de nos fortunes, et quand l'opportunité s'y présente, elle nous conduit aussi au hasard de la guerre. Non dans l'espoir de quelques gains, mais pour la beauté de l'honneur même. Ce profit est bien plus grand et bien plus digne d'être souhaité et espéré que l'honneur et la gloire, qui n'est autre chose qu'un favorable jugement qu'on fait de nous. Il faut trier de toute une nation une douzaine d'hommes pour juger d'un arpent de terre. Et le jugement de nos inclinations et de nos actions, la plus difficile matière et la plus importante qui soit, nous la remettons à la voie de la commune et de la tourbe, mère d'ignorance, d'injustice et d'inconstance. Est-ce raison de faire dépendre la vie d'un sage du jugement des fous ? Qu'y a-t-il de plus stupide que d'estimer que ce qu'on méprise individuellement valent quelque chose pris tous ensemble? Quiconque vise à leur plaire, il n'a jamais fait. C'est une butte qui n'a ni forme ni prise. Rien n'est si difficile à apprécier que le sentiment d'une multitude. Démétrios disait plaisamment de la voix du peuple qu'il ne faisait non plus de recette de celle qui lui sortait par en haut que de celle qui lui sortait par en bas. Celui-là dit encore plus. Voici mon avis. Même si une chose n'est pas honteuse, pourtant elle ne saurait ne pas être honteuse si elle est louée par la foule. Nul art, nulle souplesse d'esprit pourrait conduire nos pas à la suite d'un guide si dévoyé et si déréglé. En cette confusion venteuse de bruits, de rapports et opinions vulgaires qui nous poussent, il ne se peut établir aucune route qui vaille. Ne nous proposons point une fin si flottante et volage. Allons constamment après la raison. Que l'approbation publique nous suive par là, si elle veut, et comme elle dépend toute de la fortune,
nous n'avons point loi de l'espérer plutôt par autre voie que par celle-là.
Quand pour sa droiture, je ne suivrai le droit chemin, je le suivrai pour avoir trouvé par expérience qu'au bout du compte, c'est communément le plus heureux et le plus utile. La Providence a fait ce don aux hommes que ce qui est honnête soit le plus agréable. Le marinier ancien disait ainsi à Neptune, en une grande tempête, « Ô Dieu, tu me sauveras si tu veux. Si tu veux, tu me perdras. Mais pourtant, tiendrai-je toujours droit mon timon. » J'ai vu de mon temps 1000 hommes souples, métis, ambigus, et que nul ne doutait plus prudent mondain que moi, se perdre où je me suis sauvé. J'ai ri de voir que les ruses pouvaient manquer de succès. Paul-Émile, allant en sa glorieuse expédition de Macédoine, avertit tout le peuple à Rome de contenir sa langue de ses actions pendant son absence. Que la licence des jugements est un grand trouble aux grandes affaires. D'autant que chacun n'a pas la fermeté de Fabius à l'encontre des voies communes, contraires et injurieuses. Lui qui aima mieux laisser démembrer son autorité aux vaines fantaisies des hommes que faire moins bien sa charge avec favorable réputation et populaire consentement. Il y a je ne sais quelle douceur naturelle à se sentir loué, mais nous lui prêtons trop, de beaucoup. Je ne craindrai pas d'être loué, et ma fibre n'est pas de corne. Mais je nie que la fin et le terme de ce qui est juste soient un bravo et un c'est beau. Je ne me soucie pas tant quel je sois chez autrui, comme je me soucie quel je sois en moi-même. Je veux être riche par moi, non par emprunt. Les étrangers ne voient que les événements et apparences externes. Chacun peut faire bonne mine par le dehors, plein au-dedans de fièvre et d'effroi. Ils ne voient pas mon cœur, ils ne voient que mes contenances. On a raison de décrier l'hypocrisie qui se trouve en la guerre. Car qu'est-il plus aisé à un homme habile que de gauchir au danger et de contrefaire le mauvais, ayant le cœur plein de mollesse? Il y a tant de moyens d'éviter les occasions de se hasarder en particulier, que nous aurons trompé 1000 fois le monde avant que de nous engager à un dangereux pas. Et lors même, nous y trouvant empêtrés, nous saurons bien, pour ce coup, couvrir notre jeu d'un bon visage et d'une parole assurée, quoique l'âme nous tremble au-dedans. Et qui aurait l'usage de l'anneau platonique, rendant invisible celui qui le portait au doigt si on lui donnait le tour vers le plat de la main, assez de gens souvent se cacheraient où il se faut présenter le plus et se repentiraient d'être placés en lieu si honorable auquel la nécessité les rend assurés. Qui se réjouit d'un faux honneur et ne s'effraie d'une mauvaise réputation mensongère, sinon un être mauvais et menteur? Voilà comment tous ces jugements, qui se font des apparences externes, sont merveilleusement incertains et douteux, et n'est aucun si assuré témoin comme chacun à soi-même. En celle-là, combien avons-nous de goujats compagnons de notre gloire? Celui qui se tient ferme dans une tranchée découverte, que fait-il en cela que ne fasse devant lui 50 pauvres pionniers qui lui ouvrent le pas et le couvrent de leur corps pour 5 sous de paix par jour? Non, ne te rallie pas à tout ce que Rome l'agité blâmera. N'essaie pas de corriger la pesée injuste dans cette balance et ne te cherche pas hors de toi-même. Nous appelons agrandir notre nom, l'étendre et semer en plusieurs bouches.
Nous voulons qu'il y soit reçu en bonne part et que cette sienne accroissance lui vienne à profit.
Voilà ce qu'il y peut avoir de plus excusable en ce dessein. Mais l'excès de cette maladie en va jusque-là que plusieurs cherchent de faire parler d'eux en quelque façon que ce soit. Troque Pompée dit d'Hérostrate, et Tite-Live de Manlius Capitolinus, qu'ils étaient plus désireux de grande que de bonne réputation. Ce vice est ordinaire. Nous nous soignons plus qu'on parle de nous que comment on en parle. Et nous est assez que notre nom court par la bouche des hommes, en quelques conditions qu'il y court. Il semble que l'être connu, ce soit quelque peu avoir sa vie et sa durée en la garde d'autrui. Moi, je tiens que je ne suis que chez moi, et de cette autre mienne vie qui loge en la connaissance de mes amis, à la considérer nue et simplement en soi,
je sais bien que je n'en sens fruit ni jouissance que par la vanité d'une opinion fantastique.
Et quand je serai mort, je m'en ressentirai encore beaucoup moins. Et ainsi je perdrai tout net l'usage des vraies utilités qui accidentellement la suivent parfois. Je n'aurai plus de prise par où saisir la réputation, ni par où elle puisse me toucher, ni arriver à moi. Car de m'attendre que mon nom la reçoive, premièrement, je n'ai point de nom qui soit assez mien. De deux que j'ai, l'un est commun à toute ma race, voire encore à d'autres. Il y a une famille à Paris et à Montpellier qui se surnomme Montaigne, une autre en Bretagne et en Saintonge, deux la Montaigne. Le remuement d'une seule syllabe mêlera nos destins, de façon que j'aurai part à leur gloire, et eux, à l'aventure à ma honte. Et pourtant, les miens se sont autrefois surnommés Ekem, surnom qui touche encore une maison connue en Angleterre. Quant à mon autre nom, il est à quiconque aura envie de le prendre. Ainsi, j'honorerai peut-être un crocheteur en ma place. Et puis, quand j'aurai une marque particulière pour moi, que peut-elle marquer quand je n'y suis plus? Peut-elle désigner et favoriser l'inanité? Pourtant, la stèle n'est-elle pas plus légère sur mes os? La postérité applaudit. Maintenant, des violettes ne naissent-elles pas de ces mânes illustres, de ce tombeau, de cette cendre heureuse? Mais de ceci, j'en ai parlé ailleurs. Au demeurant, en toute une bataille où 10 000 hommes sont estropiés ou tués, il n'en est pas 15 de quoi l'on parle. Il faut que ce soit quelque grandeur bien éminente ou quelque conséquence d'importance que la fortune y ait jointe, qui fasse valoir une action privée, non d'un arquebusier seulement, mais d'un capitaine. Car de tuer un homme, ou 2 ou 10, de se présenter courageusement à la mort, c'est à la vérité quelque chose à chacun de nous, car il y va de tout. Mais pour le monde, ce sont choses si ordinaires, il s'en voit tant tous les jours, et en faut tant de pareils pour produire un effet notable, que nous n'en pouvons attendre aucune particulière recommandation. Ce cas, beaucoup l'ont connu. Il est déjà banal, pris au milieu du tas de la fortune. De tant de milias de vaillants hommes qui sont morts depuis 1500 ans en France, les armes en la main, il n'y en a pas 100 qui soient venus à notre connaissance. La mémoire, non des chefs seulement, mais des batailles et victoires, est ensevelie. Les fortunes de plus de la moitié du monde, à faute de registres, ne bougent de leur place et s'évanouissent sans durée. Si j'avais en ma possession les événements inconnus, j'en penserais très facilement supplanter les connus, en toute espèce d'exemple. Quoique des Romains même et des Grecs, parmi tant d'écrivains et de témoins, et tant de rares et nobles exploits, il en est venu si peu jusqu'à nous? À peine nous a atteint le faible souffle de la renommée. Ce sera beaucoup si, d'ici à 100 ans, on se souvient, en gros, que de notre temps, il y a eu des guerres civiles en France. Les Lacédémoniens sacrifiaient aux muses, entrant en bataille, afin que leurs gestes fussent bien et dignement écrits, estimant que ce fut une faveur divine et non commune, que les belles actions trouvassent des témoins qui leur sussent donné vie et mémoire. Pensons-nous qu'à chaque arquebusade qui nous touche, et à chaque hasard que nous courons, il y ait soudain un greffier qui l'enrôle? Et 100 greffiers outre cela le pourront écrire, desquels les commentaires ne dureront que 3 jours et ne viendront à la vue de personne. nous n'avons pas la millième partie des écrits anciens. C'est la fortune qui leur donne vie, ou plus courte ou plus longue, selon sa faveur. Et ce que nous en avons, il nous est loisible de douter si c'est le pire, n'ayant pas vu le demeurant. On ne fait pas des histoires de choses de si peu. Il faut avoir été chef à conquérir un empire ou un royaume. Il faut avoir gagné 52 batailles assignées, toujours plus faibles en nombre comme César. 10 000 bons compagnons et plusieurs grands capitaines moururent à sa suite, vaillamment et courageusement, desquels les noms n'ont duré qu'autant que leurs femmes et leurs enfants vécurent. Eux qu'une renommée obscure a ensevelis. De ce même que nous voyons bien faire, 3 mois ou 3 ans après qu'ils y sont demeurés, ils ne s'en parlent non plus que s'ils n'eussent jamais été. Quiconque considérera avec juste mesure et proportion de quels gens et de quels faits la gloire se maintient en la mémoire des livres, il trouvera qu'il y a de notre siècle fort peu d'actions et fort peu de personnes qui puissent prétendre quelques droits. Combien avons-nous vu d'hommes vertueux survivre à leur propre réputation, qui ont vu et souffert éteindre en leur présence l'honneur et la gloire très justement acquises en leurs jeunes ans? Et pour 3 ans de cette vie fantastique et imaginaire, allons-nous perdant notre vraie vie et essentielle et nous engager à une mort perpétuelle? Les sages se proposent une plus belle et plus juste fin à une si importante entreprise. Le salaire d'un acte juste, c'est de l'avoir fait. Le fruit du devoir, c'est le devoir lui-même. Il serait à l'aventure excusable à un peintre ou autre artisan, ou encore à un rhétoricien ou grammairien, de se travailler pour acquérir non par ses ouvrages. Mais les actions de la vertu, elles sont trop nobles d'elles-mêmes pour rechercher autre loyer que de leur propre valeur, et notamment pour la chercher en la vanité des jugements humains. Si toutefois cette fausse opinion sert au public à contenir les hommes en leurs devoirs, si le peuple en est éveillé à la vertu, si des princes sont touchés de voir le monde bénir la mémoire de Trajan et abominer celle de Néron, si cela les émeut de voir le nom de ce grand Pandare, autrefois si effroyable et si redouté, maudit et outragé si librement par le premier écolier qui l'entreprend, qu'elle accroisse hardiment, et qu'on la nourrisse entre nous le plus qu'on pourra. Et Platon, employant toute chose à rendre ses citoyens vertueux, leur conseille aussi de ne mépriser la bonne estimation des peuples. Et dit que, par quelque divine inspiration, il advient que les méchants mêmes savent souvent, tant de paroles que d'opinions, justement distinguer les bons des mauvais. Ce personnage et son pédagogue sont merveilleux et hardis ouvriers à faire joindre les opérations et révélations divines tout partout où manque l'humaine force. Et pour cette cause, peut-être, l'appelait Timon, en l'injuriant, le grand forgeur de miracles, comme les poètes tragiques recourent à Dieu quand ils ne parviennent pas à dénouer leur sujet. Puisque les hommes, par leur insuffisance, ne se peuvent assez payer d'une bonne monnaie qu'on y emploie encore la fausse. Ce moyen a été pratiqué par tous les législateurs, et n'est société où il n'y ait quelque mélange, ou de vanité cérémonieuse, ou d'opinion mensongère, qui servent de bride à tenir le peuple en office. C'est pour cela que la plupart ont leurs origines et commencements fabuleux et enrichis de mystères supernaturels. C'est cela qui a donné crédit aux religions bâtardes et les a faites favoriser aux gens d'entendement. Et pour cela que Numa et Sertorius, pour rendre leurs hommes de meilleure croyance, les paissaient de cette sottise, l'un que la nymphe Égérie, l'autre que sa biche blanche, leur apportait de la part des dieux tous les conseils qu'ils prenaient. Et l'autorité que Numa donna à ses lois sous titre du patronage de cette déesse, Zoroastre, législateur des Bactriens et des Perses, la donna aux siennes sous le nom du dieu Oromasis, Trismégiste des Égyptiens, sous le nom de Mercure, Zamolxis des Scythes, de Vesta, Charondas des Chalcides, de Saturne, Minos des Candiots, de Jupiter, Lycurgue des Lacédémoniens, d'Apollon, Dracon et Solon des Athéniens, de Minerve. Et toute société a un dieu à sa tête, faussement les autres, véritablement celle que Moïse dressa au peuple de Judée sorti d'Égypte. La religion des Bédouins, comme dit le sire de Joinville, portait, entre autres choses, que l'âme de celui d'entre eux qui mourait pour son prince s'en allait en un autre corps plus heureux, plus beau et plus fort que le premier, au moyen de quoi ils en hasardaient beaucoup plus volontiers leur vie. Les hommes ont l'esprit enclin à se jeter sur le fer, leur esprit peut supporter la mort, c'est lâcheté d'épargner une vie qui doit revenir. Voilà une croyance très salutaire, toute vaine qu'elle soit. Chaque nation a plusieurs tels exemples chez soi, mais ce sujet mériterait un discours à part. Pour dire encore un mot sur mon premier propos, je ne conseille non plus aux dames d'appeler « honneur » leur devoir. Dans le langage courant, on appelle « honnête » cela seul qui est glorifié par l'opinion publique. Leur devoir est le marc, leur honneur n'est que l'écorce. Ni ne leur conseille de nous donner cette excuse en paiement de leur refus, car je présuppose que leurs intentions, leurs désirs et leurs volontés, qui sont pièces où l'honneur n'a que voir, d'autant qu'il n'en paraît rien au dehors, soient encore plus réglées que les effets. Celle-là fait la faute qui ne s'abstient de la faire que parce qu'elle lui est interdite. L'offense, et envers Dieu et en la conscience, serait aussi grande de le désirer que de l'effectuer. Et puis ce sont actions d'elles-mêmes cachées et occultes. Il serait bien aisé qu'elles en dérobassent quelqu'une à la connaissance d'autrui, d'où l'honneur dépend, si elles n'avaient autre respect à leur devoir et à l'affection qu'elles portent à la chasteté pour elles-mêmes. Toute personne d'honneur choisit de perdre plutôt son honneur que de perdre sa conscience.